session de philosophie du vivant et de la nature à Rimont le 22 décembre 1994. Sixième conférence par le père Marie-Dominique Philippe.
Avec l'expérience et dans l'expérience, le jugement d'existence, ceci est.
Relative à l'expérience interne. Pour Aristote, c'est l'inverse.
existe. Donc, il y a une addition de foi, mais saint Augustin, avec son néoplatonisme, l'expérience interne est première, l'expérience externe est seconde. Alors, dans la perspective aristotélicienne, c'est l'inverse. C'est dans son sens qu'on dit qu'Aristote est réaliste, parce que c'est l'expérience externe. logos, puisque la logos, la phénoménologie, c'est le logos sur le phénomène, mais le phénomène intérieur. Le phénomène intérieur, c'est ce qui est pensé. C'est ce qui est aimé. Alors, au fond, là, pratiquement, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus qu'une sincérité. Et chaque philosophe s'enferme dans ce qu'il connaît. Je peux faire la philosophie de ce que je connais. Ça vous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la réalité. Et en définitive, de connaître l'homme. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré le Saint-Père avant qu'il soit pape. On pouvait parler plus facilement. Il n'était qu'au cardinal, c'était toujours quelque chose. Mais il m'a tout de suite dit, qu'est-ce que c'est que pour vous la philosophie? Je lui ai dit, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la recherche de l'homme. Comprendre ce que c'est que l'homme. Étant donné que je n'ai pas le droit de laisser la biologie, la science biologique, de laisser la science psychologique croire qu'ils connaissent vraiment l'homme. Non. Il faut rappeler que l'homme a une profondeur que seule la philosophie peut atteindre. Je vous le disais ce matin, l'âme. Alors le Saint-Père m'a regardé, mais ah ça oui, là je suis pleinement d'accord avec vous. C'est la recherche de l'homme. Mais alors des méthodes différentes. Le Saint-Père, au point de départ, a une méthode de Max Scheler très phénoménologique. Et pas la méthode intuitive. Alors si on avait le temps, c'est ça qui serait très intéressant, c'est de regarder la différence entre la méthode inductive, on m'a demandé d'y revenir un instant, c'est pour ça que je reprends, et la méthode phénoménologique. La méthode phénoménologique, c'est une réflexion, une description du phénomène intérieur de la pensée. On décrit ce que j'atteins. Vous voyez, c'est très bien, moi je ne suis pas contre, mais je dis on peut aller beaucoup plus loin. Parce que décrire ce qu'on connaît intérieurement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a au fond dans toute philosophie? Si je prends le terme ami de la sagesse, oh, la sagesse c'est quoi? C'est une connaissance contemplative, c'est-à-dire une connaissance qui va le plus loin possible qu'on peut aller. Comment c'est pas une sagesse? Une sagesse doit atteindre la cause finale. Ce pourquoi je suis fait. Et là, D'ailleurs, nous, qui venons après le Christ, on sait que c'est une réalité historique. Le Christ a existé. Je n'ai pas le droit de dire ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Pas du tout. J'ai le devoir, en tant que philosophe, non pas faire de l'apologétique, mais de regarder ce qu'il dit. Ce qu'il dit par rapport à l'homme. Oui, c'est pour ça que je mettrai qu'en troisième dimension de l'éthique, le philosophe qui étudie le Christ comme les anciens étudiaient Socrate. Socrate a joué un rôle énorme dans la philosophie de Platon, dans la philosophie d'Aristote, dans la philosophie épique, dans la philosophie stoïcienne. C'est toujours Socrate qu'on garde comme exemple. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin, en éthique, d'avoir des modèles. La cause exemplaire joue. Oui, la cause exemplaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs. Les valeurs, c'est la cause exemplaire. C'est pas la finalité, mais c'est les valeurs. C'est la cause, c'est la cause exemplaire. Les valeurs. On a besoin, quand les gens sont si bas au point de vue moral, de reprendre les valeurs. Les valeurs pour redécouvrir la finalité. Mais les valeurs, c'est les causes exemplaires. Et un Socrate donne la cause exemplaire. On voit qu'un homme est comme ça. Oui, ça a été toute la philosophie de Nietzsche. Le surhomme, c'est la recherche des valeurs. Alors c'est particulier chez lui, on pourrait critiquer, mais c'est la recherche des valeurs, c'est la grandeur d'un Nietzsche. Il recherche le surhomme. Un homme de valeur est un surhomme, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde passé, non. Dans le monde passé, le surhomme, c'était le sage. Et c'était l'homme tout court. Mais aujourd'hui, le niveau de l'homme, avec la laïcité poussée à l'extrême, le niveau de l'homme est tellement bas que celui qui admet les valeurs, c'est un surhomme. Et celui qui admet la finalité, c'est le sage, mais on n'en voit plus. Parce que ça, c'est plus court. Mais là, c'est plus sur le marché. Bon, alors, une philosophie de l'expérience, c'est une philosophie qui va rechercher, à partir de l'expérience, les sources pour aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité. Donc il va rechercher les différentes causes. Alors, ce qui serait très important, c'est de bien voir la différence entre la découverte d'une cause, d'un principe, et la découverte d'une loi. La loi, c'est toujours une relation nécessaire de conséquences, d'antécédents et de conséquences. Donc mettez bien ça, la loi, les lois scientifiques, hein, ce sont des relations entre antécédents, conséquents. Si je pose, c'est la fameuse chose qu'on dit, si je pose telle réalité, telle autre réalité viendra. Entre les deux, il y a une relation de nécessité. Et c'est pour ça que certains, depuis Hegel, définissent la philosophie, la recherche du nécessaire, des lois nécessaires, sans parler de vérité, tout simplement des liens de nécessité. Et c'est vrai que le philosophe, le savant, cherche le nécessaire. Le philosophe réaliste recherche les causes départ relatif. Toute la différence entre la découverte du philosophe et la découverte d'une loi. Là, ceci, c'est très très net en mathématiques et dans les sciences modernes, qui toutes dépendent un peu des mathématiques. On l'a dit, on l'a redit. On a dit que de fait, les mathématiques jouaient actuellement le rôle par rapport aux sciences modernes que la métaphysique ou la philosophie dans le temps. Vous voyez ? Alors c'est pour ça qu'il y a un décalage pour le mot science. Le mot science n'a plus la même valeur entre Aristote et nous, entre Thomas d'Aquin et nous, puisque pour Thomas d'Aquin et pour Aristote, le propre de la science, c'est la philosophie. Qu'elle a découvert des principes et des causes propres. Et pour les modernes, la science, c'est les relations, les lois, les relations nécessaires. Donc les relations nécessaires, un lien de nécessité. Ce n'est pas purement d'équivoque. Il y a quelque chose de semblable, parce que c'est toujours la recherche du nécessaire. Donc au fond, ce qu'il y a de fondamental et de radical dans une pensée philosophique, c'est la recherche du nécessaire. Mais vous recherchez le nécessaire à des niveaux différents. Vous recherchez le nécessaire au sens très très radical et premier, c'est le principe. Le principe est toujours nécessaire. C'est l'apanage du principe, parce qu'il est premier. Tandis que l'apanage du second, c'est relatif. Vous savez, on dit ça couramment. Il y a des tempéraments, il y a des hommes qu'il ne faut jamais qu'ils soient premiers. Il faut toujours qu'ils soient seconds. Ils sont des merveilleux seconds. Mais dès qu'on les met premiers, tout branle. Ça craque. Parce qu'ils n'ont pas d'appui. Ils n'ont pas assez d'autonomie. Ils n'ont pas assez de sécurité. Parce qu'ils ne sont pas rattachés à la fin. C'est la finalité qui nous donne notre autonomie. Au point de vue moral. Au point de vue de notre vie, de notre personne humaine. Dès qu'on est dans l'ordre des moyens, dans l'ordre de la prudence, on peut discuter. Tandis que finalement. Oui, l'interrogation. C'est ce qu'on cherchait, l'interrogation. Quelle est la source? Vous voyez, si on interroge vraiment, quelle est la source en moi de toute la diversité de mes opérations? On fait ça machinalement, on n'y pense pas, mais si je me mets à penser à toute la diversité des opérations, et lorsque je veux me spécialiser, je fais attention à ces opérations particulières. Quand je veux aimer vraiment, je m'éduque. Quand je veux chercher la vérité, je m'éduque. Puisque l'homme est un être essentiellement éducable. Donc c'est un être qui devrait toujours interroger. Mais on n'interroge plus. Parce que quand on était gosse, on a posé trop d'interrogations. Et ceux qui étaient autour de nous, tais-toi, des interrogations. On a trouvé que c'était complètement idiot d'interroger. Alors que c'est le signe d'une intelligence qui pousse. Et c'est beau de voir ça. C'est ça pousse. Alors ça interroge, ça va aller plus loin, ça va découvrir. Et le nœud de l'interrogation au niveau induction, c'est de trouver deux premiers qui sont l'absolu. Et pourtant, ils ne peuvent pas être absolus, puisque ils sont liés l'un à l'autre dans le même sujet et représentent deux états, deux opérations vitales très différentes. Or, l'une exclut l'autre. Si je regarde de l'extérieur, l'expérience interne, l'expérience externe, mais c'est pas la même chose. Alors je pourrais dire, toute expérience interne présuppose une expérience externe. Toute expérience externe implique une expérience interne. Oui, mais au fond, c'est quand même très différent. Alors, d'où vient l'unité? Pourquoi toutes les deux se présentent à moi? Qu'est-ce qu'il y a qui peut les unir? Puisque deux jamais premier. Et que deux, quand le point de vue existentiel, les deux impliquant le jugement d'existence, parce que l'induction philosophique repose toujours sur l'expérience qui me fait toucher une réalité. Ce sont deux réalités vitales qui sont de moi et qui ne peuvent pas s'expliquer mutuellement l'une par l'autre. S'opposent pas, mais qui sont contraires, qui sont tout à fait différentes. Donc l'une ne peut pas expliquer l'autre. Si l'une ne peut pas expliquer l'autre, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose qui soit au-delà de cette dualité et qui soit source de l'un et de l'autre. Puisqu'il y a quelque chose de commun et en même temps une diversité. Il faut donc expliquer ce commun qui existe, qui est réel. Donc c'est pas poser une hypothèse, c'est poser une réalité, parce que je pars de la réalité expérimentée. Si je ne partais pas de la réalité expérimentée, j'aboutirais tout simplement à un premier hypothétique. Tandis que là, je pars d'une réalité expérimentée qui existe. Et parce que cette réalité existe, il faut nécessairement qu'à la source, il y ait quelque chose de réel. Ce quelque chose de réel, au début, je suis conduit et comme obligé de le poser. Puis je réfléchis, je reviens sur toute l'induction de l'âme. Et je vois que chacune de mes opérations explicite quelque chose de très profond qui est en moi. Quelque chose qui est radical, qui est au-delà de ma corporéité. Et je vois que mon corps lui-même n'est parfaitement intelligible que grâce à mon âme. C'est par là qu'il vit. Cette parole, je me souviens, c'était à Fribourg, dans un séminaire où il y avait un Espagnol qui faisait une thèse en biologie à Genève et qui était venu à Fribourg pour eux et qui assistait à ce séminaire. Alors quand il a vu ce qu'Aristote dit, cette phrase d'Aristote, le corps humain n'est intelligible que par l'âme. À la fin, quand on discutait ce texte, il est sorti de là en disant, mais alors, la science biologique, on ne parle pas de l'âme, et pourtant c'est si quelque chose d'intelligible. Vous saisissez des lois et des rapports. Grâce à la complexité du corps humain, vous saisissez des rapports extrêmement tunamis, comme disent les Grecs. Une tunamis qui est source de toutes mes opérations vitales, de toutes mes opérations intelligibles. C'est la même chose pour l'amour. Oui, l'induction joue tout le temps en philosophie. Le passage du visible à l'invisible. Le visible, je le constate, je le vois, il est multiple, il est divers. Au-delà du visible,